Vous écoutez France Culture.
C'est l'heure du journal de la rédaction. Bonjour Jacqueline Fardel.
Bonjour. Le retour des sanctions américaines en Iran, première vague attendue cette nuit dans un pays déjà au bord de l'asphyxie. La grogne monte, Siavosh Ghazi nous appelle de Téhéran. Mise en scène ou attentat déjoué, la confusion au Venezuela après une attaque ce week-end pendant un meeting du président. Nicolas Maduro accuse la Colombie et promet une punition maximale. Alors qui en veut au président Maduro? L'analyse de Nadine Epstein. Expulsion de l'ambassadeur, gel des relations commerciales, crise diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Canada. Riyad accuse Ottawa d'ingérence sur la question des droits de l'homme. Un décryptage de Nabila Hamel. Gouvernement et rebelles acceptent de partager le pouvoir au Soudan du Sud. Cet accord sera-t-il le bon après 5 ans de guerre civile? Élément de réponse avec Valérie Crova. Après les pilotes irlandais et suédois, les pilotes allemands de Ryanair menacent de se mettre en grève. Des salariés qui ne veulent pas faire les frais de la stratégie du low cost à tout prix, nous dira Jean-Marc Chardon. Joël Robuchon rend son tablier. Le chef le plus étoilé au monde est mort ce matin, 73 ans. Il avait ouvert plus de 15 restaurants dans le monde. Camille Magnard revient sur le parcours de ce génie de la gastronomie. La grande table dans un quart d'heure, Romain Debecq de Lièvre.
Oui, en première partie, on va revenir sur l'œuvre de nouvelliste de l'américain Raymond Carver. Et en seconde partie, on fera le portrait de l'artiste numérique Anne Aurel.
Rendez-vous à 12h45. Après les menaces, le passage à l'acte, les Iraniens se préparent au retour des sanctions américaines contre leur pays. Conséquence du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire au mois de mai. Une première vague de nouvelles sanctions économiques doit entrer en vigueur cette nuit, visée notamment les achats dans le secteur automobile, l'aviation commerciale ou encore certaines importations de matières premières. Les États-Unis menacent aussi de sanctions les sociétés étrangères, notamment européennes, si elles font des investissements en Iran. Dans le pays, la crise économique risque de s'amplifier. Les effets psychologiques, eux, sont déjà là. La grogne grandit dans le pays, à Téhéran et dans plusieurs villes du pays. Il y a déjà eu plusieurs manifestations contre la vie chère. À Téhéran, Siavosh Ghazi.
Avant même leur entrée en fonction, les sanctions américaines ont touché de plein fouet l'économie iranienne. La valeur de la monnaie iranienne a fortement chuté ces derniers mois. Un dollar américain valait 50 000 rials en mars dernier. Aujourd'hui, il vaut au moins le double. Cette chute de la valeur du rial a eu pour résultat une augmentation très forte des prix de tous les produits, notamment de consommation courante, ce qui touche de plein fouet les Iraniens dans leur vie de tous les jours et provoque un grand mécontentement social et économique. Ces derniers mois, de nombreuses sociétés européennes ont annoncé le retrait du marché iranien par crainte des sanctions américaines. Avec l'accord nucléaire conclu en juillet 2015 avec les grandes puissances, le gouvernement iranien espérait attirer les investisseurs européens et asiatiques pour relancer l'économie du pays. Cet espoir a volé en éclats avec les nouvelles sanctions américaines. L'économie iranienne tourne au ralenti avec des licenciements importants dans de nombreux secteurs. Dans les magasins, certains produits commencent à manquer, ce qui accentue encore les craintes de la population. D'autant plus que ces nouvelles sanctions américaines qui visent des secteurs comme l'automobile ou les exportations de produits alimentaires doivent être complétées par des sanctions contre les exportations pétrolières de l'Iran et la banque centrale du pays en novembre prochain. Le gouvernement iranien espère encore que les pays européens, mais aussi la Chine et la Russie, vont lui permettre d'atténuer et contrecarrer les pressions et les sanctions américaines.
La première vague de sanctions va entrer en vigueur à 6h demain matin. Une deuxième vague de sanctions entrera en vigueur le 4 novembre. Qui est derrière l'attaque de samedi contre le président vénézuélien? Nicolas Maduro dit avoir été visé par un attentat, une attaque par des drones chargés d'explosifs lors d'un discours en plein centre de Caracas. Le président vénézuélien a aussitôt accusé la Colombie. Un mystérieux groupe rebelle a revendiqué l'action. 6 personnes arrêtées déjà. Et le président Maduro promet de répliquer avec une poigne de fer. Sur place, Nadine Epstein, l'opposition redoute une nouvelle vague de répression.
Nous avons jusqu'à présent 6 terroristes et tueurs à gages arrêtés, plusieurs véhicules saisis. Des perquisitions ont eu lieu dans divers hôtels de la capitale où des preuves accablantes ont été découvertes. C'est ce qu'a assuré le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Menester Reverol, n'a pas parlé du mouvement national des soldats en chemise, groupe qui a revendiqué l'attentat. Inconnu politiquement jusqu'à cette action, ce mouvement signe un texte sur les réseaux sociaux, rendant le régime communiste responsable des souffrances imposées à la population. Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a lui mis en cause, je cite, « des financiers non identifiés qui résideraient aux États-Unis, mais aussi l'ultra-droite, comprenait à ses yeux tout opposant au bolivarisme ». Pourtant, leur nombre ne cesse d'augmenter depuis des mois. Face à la multiplication des pénuries, il manque de tout, nourriture, médicaments, travail, argent, éducation, la population est descendue dans les rues pour dénoncer la politique du gouvernement. Elle a été fortement réprimée. Morts, coups, arrestations, disparitions et exil. Selon certaines organisations, 4 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays, toutes catégories sociales confondues. Des intellectuels, des hommes d'affaires, des professeurs, des étudiants, des ouvriers. Plus d'un million et demi d'entre eux sont allés en Colombie. Et la semaine dernière, Bogota a donné à 440 000 Vénézuéliens un accès aux services sociaux et une carte de séjour de 2 ans en Colombie. Un geste de soutien du président colombien Juan Manuel Santos aux Vénézuéliens opposés à Nicolas Maduro, ce qui a fortement déplu au président vénézuélien qui aujourd'hui l'accuse d'être derrière l'attentat contre lui.
L'Arabie Saoudite n'apprécie pas que le Canada s'immisce dans ses affaires intérieures. Riyad qui est expulse l'ambassadeur du Canada et rappelle son propre ambassadeur à Ottawa. Un gel des relations commerciales aussi a été décidé. En cause, l'appel de l'ambassade du Canada à la libération immédiate de militants de droits de l'homme emprisonnés dans le royaume, notamment des opposantes au régime et des militantes des droits des femmes. Une ingérence inacceptable pour l'Arabie Saoudite, Nabila Hamel.
Oui, c'est a priori la formulation qui est en cause. L'appel à une libération immédiate de 2 militantes des droits de l'homme est vu comme une injonction de la représentation diplomatique canadienne. Les autorités saoudiennes n'acceptent ni les ingérences intérieures dans les affaires du pays, ni les dictats imposés, expliqué dans un tweet le chef de la diplomatie du royaume. Et du coup, l'ambassadeur canadien avait 24 heures pour quitter le pays. L'Arabie saoudite a rappelé le sien en poste à Ottawa. Et concrètement, Riyad annonce le gel de toute nouvelle transaction sur le commerce et les investissements avec le Canada et se réserve le droit de prendre de nouvelles mesures. Voilà donc ce qui a déclenché ce début de crise diplomatique entre les deux pays. Le Canada n'a pas de relations économiques très importantes avec l'Arabie, mais Riyad veut peut-être en faire un exemple, d'autant que le Canada, comme l'ONU et l'ONG Human Rights Watch, s'était déjà inquiété en haut lieu du sort de plusieurs militantes féminines emprisonnées. La plupart ont été relâchées, mais sont restées en prison 2 personnes emblématiques de la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et au-delà donc de l'autorisation de conduire déjà en vigueur, elles militaient pour la fin de la tutelle imposée aux femmes saoudiennes. L'une d'elles, Samar Badawi, est la sœur du blogueur Raef Badawi, emprisonnée en Arabie Saoudite, depuis 2012. Elle avait reçu le prix international du courage féminin décerné par le département d'État américain. A signalé que l'épouse du blogueur et ses 3 enfants vivent quant à eux au Québec depuis 2013.
Nabila Hamel, merci. En Indonésie, les équipes de secours fouillent les décombres à la recherche de survivants après le séisme sur l'île de Lombok. À plus de 90 morts, au moins 200 blessés. Des milliers d'habitants ont dû quitter leur maison. Des centaines de touristes ont été évacués des îles proches de Lombok. C'est un accord qui devrait mettre fin à une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés en plus de 4 ans au Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde. Le gouvernement et le groupe rebelle du pays, ont signé hier à Khartoum un accord sur le partage du pouvoir. Ce n'est pas le premier. D'autres accords avaient déjà été signés, mais n'ont duré que quelques mois. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Alors celui-ci peut-il tenir plus que les autres?
Il faut espérer qu'il tiendra en tout cas plus longtemps que le précédent, qui n'avait duré que 3 mois. Alors ce n'est qu'une ébauche, un accord définitif qui devait être signé plus tard. Plusieurs points suscitent en tout cas déjà des interrogations. L'accord prévoit la mise en place d'un gouvernement de transition composé de 35 ministres qui représenteront les groupes du président sud-soudanais Salva Kiir et de son rival Riek Machar, lequel retrouvera son poste de vice-président. On revient donc à la situation d'avant, sauf qu'il y aura 4 autres vice-présidents. Est-ce qu'ils réussiront à s'entendre? Sur quelle base le futur gouvernement fonctionnera-t-il? D'autres points n'ont pas encore été évoqués, notamment la réorganisation de l'armée, même s'il n'y a plus à proprement parler d'armée nationale au Sud-Soudan. Depuis le déclenchement de la guerre civile, le pays a vu la multiplication des groupes armés qui se sont livrés à des exactions, ce qui a contraint des millions de personnes à fuir dans les pays voisins. Qu'en est-il enfin de la manne pétrolière? Le président soudanais Omar al-Béchir espère que la production reprendra d'ici le 1er septembre. 7 ans après l'indépendance du Soudan du Sud, Khartoum a du mal à se remettre économiquement de la perte des champs pétroliers qui se trouvent en majorité au sud. Mais le Sud-Soudan est aussi très dépendant de son voisin pour ses exportations. Il doit utiliser les oléoducs de Khartoum pour faire transiter son pétrole. Tout le monde a donc intérêt à ce que les exportations de pétrole reprennent au plus vite, ce qui fait dire à ce connaisseur du Sud-Soudan que l'accord d'hier est surtout un accord pour ce partage du gâteau.
Merci pour cette analyse au Soudan du Sud, Valérie Crova. Le Rassemblement national joue gros cet après-midi devant la justice. L'ex-Front national veut faire annuler la saisie de 2 millions d'euros d'aide publique. Une saisie ordonnée dans l'enquête sur les assistants présumés fictifs du parti d'extrême droite au Parlement européen. Le parti de Marine Le Pen crie à l'assassinat politique, brandit la menace d'un dépôt de bilan. Un recours a été déposé. Il est examiné à huis clos cet après-midi par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Antoine Marette.
Effectivement, alors la saisie judiciaire date du 28 juin dernier. Elle a été décidée par Claire Thépot et Renaud Van Ruymbeck. Ces deux juges d'instruction enquêtent depuis fin 2016 sur un possible système organisé par l'ex-FN, système pour faire prendre en charge par le Parlement européen des salaires du parti. Le parti aurait en fait utilisé des contrats d'assistants parlementaires possiblement fictifs. Dans leur ordonnance, les deux juges estiment que le FN organisait de manière concertée et délibérée le système de détournement de ces fonds européens à son profit. Le préjudice est estimé par Bruxelles à 6 800 000 euros sur deux mandatures, sur une période allant de 2009 à 2017. 2 millions d'euros ont donc été saisis par la justice française, mais saisis sur la subvention d'État versée par le ministère de l'Intérieur au parti, une subvention qui représente pour le Rassemblement national 4 millions et demi d'euros par an, un chiffre calculé selon ses résultats aux législatives. Le parti, dont les comptes sont dans le rouge, a déjà lancé un appel aux dons auprès de ses sympathisants. Il est parvenu à récolter 500 000 euros, très loin du compte. Si la Cour d'appel de Paris confirme donc cette saisie de 2 millions d'euros, le parti risque tout simplement la cessation de paiement.
Audience cet après-midi à 13h30 à la Cour d'appel de Paris. Une nouvelle grève menace Ryanair, cette fois en Allemagne. La compagnie à bas coût irlandaise doit faire face depuis juillet à la grogne des pilotes irlandais et suédois. Aujourd'hui, ce sont les pilotes allemands qui posent un ultimatum. Ils menacent de se mettre en grève vendredi si la direction ne leur accorde pas de meilleures conditions de travail. Il a bouleversé les codes de la haute cuisine. Joël Robuchon est décédé ce matin à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer. Le chef cuisinier français était l'un des plus étoilés au monde. L'homme était à la tête d'un véritable empire gastronomique, de Paris à Tokyo en passant par New York, Londres ou encore Las Vegas. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Joël Robuchon, c'était une nouvelle façon de penser la gastronomie, une nouvelle manière aussi de la transmettre au plus grand nombre, notamment par la télévision.
Oui, ces quelques notes du Barbier de Séville, c'était surtout de 2000 à 2009 sur France 3, le générique de Bon Appétit, bien sûr, l'émission qui avait précipité la popularité médiatique de Joël Robuchon. On était alors dans les prémices de ce vedettariat des grands chefs qui voient leur nom désormais transformé en marque, décliné en produits dérivés par l'industrie agroalimentaire. Avec Paul Bocuse, décédé en janvier, Joël Robuchon, c'était l'un des précurseurs de cette tendance en France. Issu d'une formation très académique, de cette gastronomie du compagnonnage, il avait très tôt voulu sortir la cuisine traditionnelle de son carcan bourgeois avec comme porte-étendard son plat signature, une simple entre guillemets, avec 300 grammes de beurre au kilo, une simple donc purée de pommes de terre. Ces dernières années, alors qu'il se savait malade d'un cancer, Joël Robuchon avait pris un tournant radical dans sa cuisine, plus de légumes, moins de viande, des sucres et des graisses réduits autant que possible dans les recettes. Par exemple, il ne mettait plus que 200 grammes de beurre au kilo dans sa purée, résultat d'une rencontre qu'il disait fondatrice avec la nutritionniste et acupunctrice Nadia Wolf. Une influence aussi des cuisines asiatiques côtoyées alors que Joël Robuchon ouvrait à la chaîne des restaurants qui portaient ses initiales de Bombay à Tokyo en passant par Singapour et Taipei. La maladie l'avait poussé à vendre très discrètement il y a quelques mois tous ses restaurants à un fonds d'investissement basé à Londres et au Luxembourg moyennant d'importantes royalties et l'engagement que son nom, Joël Robuchon, resterait associé à la plus grande exigence en cuisine comme en salle.
Joël Robuchon donc décédé ce matin à l'âge de 73 ans. Une journée encore étouffante aujourd'hui. 67 départements en alerte orange à la canicule en France. Des risques de pollution à l'ozone. Des restrictions de circulation sont mises en place aujourd'hui à Paris, à Lyon ou encore en Isère. Il fera jusqu'à 38 degrés dans la vallée du Rhône. 37 à Toulouse, 36 à Paris avant un rafraîchissement attendu pour demain en fin de journée. Midi 45 sur France Culture. Ce journal était préparé avec Mathilde Julien. Prochain rendez-vous avec l'information à 18h avec Sébastien Berriot et tout de suite la grande table avec Romain Debecq de Lièvre.